Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put in other banks? No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Stromboli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl, can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, cette émission qui vous parle série télévisée. 13e épisode déjà de cette saison 6 avec Aurore. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue en studio, on va revoir avec toi comme chaque semaine ou presque quelques séries que tu as pu visionner pour nous, histoire de débuter cette émission.
Oui, et on va commencer déjà par deux nouveautés, deux séries qui sont sorties récemment et pour une fois, il y a une série française dans le tas.
Hein, ah oui.
C'est assez rare pour être souligné. Ça s'appelle Hippocrate et c'est une série proposée par Canal+, qui se passe dans un hôpital, dans le service de médecine interne, qui vit une crise puisque pour cause de quarantaine, tous les médecins titulaires ont été écartés et donc seuls les tout nouveaux arrivants, les stagiaires entre guillemets, je crois qu'on les appelle les internes si je ne m'abuse, sont quasiment seul pour devoir gérer les trois ailes que comporte ce service de médecine interne. Donc, c'est assez passionnant, très rapidement à suivre, même s'il n'y a absolument rien de spectaculaire. On est vraiment dans la représentation d'un quotidien. Alors, un quotidien un petit peu exceptionnel pour cause de quarantaine, mais néanmoins relativement routinier, quoi. Hein. Sauf que c'est particulièrement bien joué, c'est particulièrement pertinent sur le regard que ça porte sur l'état de l'hôpital, en l'occurrence l'hôpital français. Hein. On ne peut que qu'être en empathie avec les personnages que l'on suit et s'identifier d'une certaine manière à l'absurdité de certaines situations, notamment administratives, qu'ils doivent vivre et qu'ils doivent subir sans trop avoir quoi que ce soit à dire. Et puis en plus, étant donné que ce sont de jeunes médecins qui débutent, on a l'occasion de faire nos premiers pas avec eux dans ce que c'est que de travailler dans un hôpital, avec le côté évidemment soins aux malades, et on a plusieurs cas qui sont tous très non seulement intéressants mais assez rapidement attachants eux aussi, même si on ne les voit pas trop souvent, hein, mais on les identifie assez vite et on s'attache assez vite à eux. Et puis aussi du côté coulisses, on voit comment ça peut se passer entre médecins, notamment dans une grande salle réfectoire où ils ont l'habitude de se retrouver pour les repas. Le seul petit bémol que j'ai ressenti, en tout cas au début de la série, mais j'ai l'impression, en tout cas moi, ça, la manière dont ça a été géré en fin de saison me fait dire que malgré tout, on n'est pas tombé dans les clichés absolus. C'est que il y a une seule chose qu'on a déjà vue, c'est le fameux cas du médecin qui lui aussi est malade et qui cache sa maladie, qui en fait trop alors qu'il ne devrait pas parce qu'il ferait mieux de se soigner. C'est, j'ai l'impression, quelque chose qu'on retrouve quand même relativement régulièrement dans les séries hospitalières, mais c'est bien le seul élément qui me fait dire oui, c'est peut-être un petit peu déjà vu, mais comme je l'ai dit, la manière dont les choses vont se dérouler sur l'ensemble de la saison et dont ça va se terminer me fait dire que malgré tout, ils ont donné une tournure très particulière et différente à cette problématique récurrente, quoi. Par contre, le reste, vraiment, c'est le grand intérêt de cette série, en dehors du fait que c'est très bien joué, qu'on a vraiment une impression de réalisme et une véritable empathie envers les personnages. C'est très bien écrit, etc. En dehors de tout ça, pour quelqu'un comme moi qui est plutôt habitué aux séries, mais c'est aussi un dépaysement, quoi. Ça change et ça fait plaisir de voir qu'il y a moyen de faire une série hospitalière différente et plus proche finalement de notre réalité à nous. Donc pour moi, c'est vraiment une grande, grande réussite que cette saison 1 de Hippocrate, qui comprenait, me semble-t-il, 8 épisodes. Et j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2, que ça ne traînera pas des années avant de la voir, parce que j'ai hâte de continuer à pouvoir suivre la vie de cet hôpital.
Bien, ça m'a passionné aussi de mon côté. Mm-hmm. Maintenant, mon avis est peut-être un peu moins tranché, dans le sens où, justement, c'est parce qu'on n'a plus l'habitude de voir des séries en français qui nous ressemblent, finalement, que parfois je me dis, tiens, bien joué, oui, c'est bien joué, mm-hmm. mais on n'a plus l'habitude d'entendre des acteurs parler français, notamment. On a quand même l'impression de voir des vraies personnes. C'est là qu'on sait que c'est bien joué, mais voilà, c'est troublant. Et alors, l'ambiance assez grise. Mmh, et sombre, oui. De l'hôpital. Mais une nouvelle fois, c'est à ça que ça doit ressembler. Il n'y a pas d'artifice. Et c'est troublant, parce qu'on se dit, tiens, ils n'ont pas les moyens d'éclairer, mais à la fois, ça rend le réel de la chose.
Oui, c'est sans doute un parti pris, mais c'est vrai aussi qu'on voit que c'est un très vieux bâtiment, quoi. C'est un hôpital qui a vécu, qui a une histoire, quoi. Hein, on voit notamment dans le réfectoire les fresques qu'il y a au mur et tout. Ça indique aussi tout un passé qui probablement aujourd'hui peut un petit peu choquer ou faire tâche, comme on peut imaginer que dans ce genre de salle habituellement plus occupée par des médecins masculins, ça pouvait être décoré à l'époque et puis c'est resté comme ça aujourd'hui. Sur ce que tu dis, sur le fait que ça joue en français, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. La grande différence, et je peux notamment comparer, puisque j'ai regardé également pendant les vacances Plan Cœur, qui est la deuxième série française de Netflix, je peux t'assurer à 100% que il y a pas photo au niveau du jeu des acteurs, quoi. Hein. C'est okay. Vraiment le monde et le jour et la nuit, tellement ça.
Mais bon, Plan Cœur, c'est pas quoi ? C'est pas un peu une série poubelle ?
Mais écoute, je sais pas du tout comment ça a été conçu, s'il y a eu des couacs dans l'histoire et si le casting a été un petit peu réfléchi, mais bon, ça n'a absolument rien à voir et je crois que la direction des acteurs aussi fait beaucoup. Ici, on voit vraiment qu'on a affaire à quelqu'un qui et qui connaît son sujet. C'est une série qui est tirée déjà d'un film qui a été fait précédemment. Et ça se ressent, quoi. Tout est ancré dans une réalité bien plus brute que Planqueur, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Bah déjà, bon. Déjà, le titre de la série résume bien le niveau.
Oui, probablement, oui, c'est vrai.
Désolé.
Donc voilà, si vous voulez voir une série française cette année, préférez Hippocrate à Planqueur. Je crois que c'était le message du jour. Ensuite, malgré tout, on vient de dire un peu de mal de Netflix, mais la deuxième série dont je vais parler est sur Netflix, et pour tout te dire, elle est apparue, me semble-t-il, le vendredi passé, et j'avais fini samedi soir. Ça te donne un petit peu ouais. une idée de... alors d'accord, c'était le week-end, peut-être que j'avais rien à faire ce jour-là, justement. Ça explique peut-être en partie, mais il n'y a pas que ça, parce que quand même... j'ai trouvé cette série qui s'appelle Sex Education assez addictive, très, très sympa. Alors on se casse pas la tête, on n'est pas du tout dans quelque chose d'extrêmement pathétique, où tu vois, où on sortirait les violons, où on se sentirait extrêmement ému, ou quoi que ce soit. Non, c'est une série assez légère et qui, malgré tout, dit des choses qui peuvent être touchantes. Une série qui va nous faire suivre principalement un personnage principal qui est un adolescent de plus ou moins 16 ans qui... vit avec sa mère qui est thérapeute, sexologue. Donc elle reçoit dans son cabinet des couples ou éventuellement des personnes seules pour parler de leurs problèmes sexuels, si on peut dire ça comme ça. Mais probablement que tout ce contexte joue un petit peu sur la libido du jeune homme parce que finalement ça l'a totalement inhibé, cette grande liberté avec laquelle la sexualité est abordée dans son contexte familial. Et donc il vit comme ça avec une sorte de retenue extrême qui fait de lui un petit gars un petit peu renfermé sur lui, un petit peu coincé, que personne ne remarque. Finalement, on commence là-dessus et puis sur un concours de circonstances, comme c'est souvent le cas dans ce genre de fiction, il va... découvrir et une camarade de classe va découvrir en même temps que lui que il a probablement quand même des dons pour essayer d'écouter les gens qui ont eux aussi des problèmes avec leur sexualité ou bien dans des problèmes relationnels notamment principalement dans leur couple et qu'il est capable d'apporter des solutions qui tiennent la route. Et à partir de là, mais ils vont décider, la camarade de classe en question parce que elle est dans une situation où elle a besoin de se faire de l'argent, et lui parce que finalement ça va lui permettre de sortir un peu de sa coquille et peut-être se faire un petit peu devenir visible aux yeux du reste de l'école. Et ils vont monter une sorte de clinique clandestine dans laquelle il va proposer des consultations aux différents adolescents qui composent l'école. Évidemment, bon, on n'est pas du tout dans quelque chose de très réaliste. Néanmoins, je trouve que les différents sujets, les problématiques que peuvent apporter les adolescents qui viennent le voir sont toujours traités avec une certaine justesse et y a aussi beaucoup d'humour dans cette série, il y a beaucoup de justesse dans la manière dont sont traitées les relations entre les différents personnages. On pouvait par exemple assez vite craindre le syndrome du mec finalement, enfin du jeune homme passe-partout qui, parce que il va tout à coup montrer un talent quelconque, va réussir à conquérir la fille la plus belle et la plus cool du lycée. Bon, on ne sort pas entièrement des clichés, évidemment, hein, mais néanmoins, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à assez bien mener leur barque pour ne pas trop s'encastrer dans tous les clichés habituels de la série adolescente, quoi. On retrouve ces différents stéréotypes auxquels on est habitué, mais pour leur donner une tournure un petit peu différente. Et c'est vraiment une série que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir. Bon, ça veut pas dire que ça a révolutionné ma vie, hein, mais...
Non, mais tu l'as quand même dévoré en quelques heures.
Oui, oui. Malgré tout, j'imagine que ça veut quand même dire quelque chose, même si c'est pas du tout la série que je mettrais en numéro un de tout ce que j'ai vu dernièrement, mais c'est un vrai... divertissement très très plaisant et moins con qu'on ne pourrait éventuellement le craindre à l'origine. Donc voilà, c'est plutôt une chouette découverte que je vous propose de découvrir à votre tour, sachant que j'ai aussi été un petit peu étonnée parce que jusqu'ici j'avais toujours eu l'impression que Netflix restait relativement sage dans ce qu'il proposait sur ses plateformes. Et là, on arrive à montrer un petit peu plus de choses autour de la sexualité que ce à quoi on a été habitué jusqu'ici. Bon, Big Mouth mis à part, mais évidemment, dans Big Mouth, étant donné que c'est du dessin animé, c'était probablement un petit peu plus facile de faire passer certains sujets, quoi. Ici, on est un petit peu plus dans le frontal, même si ça n'est jamais choquant ni pornographique, évidemment, hein, mais malgré tout, voilà, je me dis, il y a peut-être aussi une petite ouverture qui commence à se faire au niveau de la plateforme, qui va proposer peut-être des séries un peu moins coincées à ce niveau-là. Voilà.
Voilà pour le compte-rendu des séries visionnées par toi ces derniers jours. On va passer à la musique.
On va passer à la musique avec Beth Ditto et Fire, entendu dans Sex Education.
In a stupor, sitting on the side of the road, ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way it is. Bless my soul, I can't resist. What's hot as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home.
La suite de Série Folie avec un sujet abordé comme chaque semaine. Quel est-il, Aurore ?
Eh bien, on va parler de l'ambition chez les personnages féminins dans les séries. Je vais un petit peu expliquer pourquoi j'ai eu envie de parler de ça aujourd'hui. C'est parce que j'ai vu la saison 2 de The Marvelous Mrs. Maisel et tu sais que j'ai décidé dans la première partie de ne parler que des séries qui m'ont plu. C'est pour ça que jusqu'ici tu n'en avais pas entendu parler. Pourquoi?
Parce qu'elle a dû te décevoir à un moment.
Voilà. Je dois dire que j'ai terminé la saison avec une sorte de... Je ne vais pas dire un grand désespoir, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais vraiment une frustration extrême. Et au départ, je me suis dit, tu n'as aucune raison de t'énerver comme ça sur les séries. Ok, cette série ne pense pas comme toi, mais en même temps, personne n'est obligé de penser comme toi. On a tous le droit d'avoir des manières de voir un petit peu différentes. Néanmoins, j'ai identifié ce qui me posait vraiment problème dans cette fin de saison, c'est justement la manière dont, et j'ai l'impression encore une fois, et c'est pour ça qu'on va un petit peu plus explorer justement cette question aujourd'hui, on nous instille comme ça à travers cette fiction un message qui est que forcément, quand on est une femme, alors d'accord, dans The Marvelous Mrs. Maisel, c'est une femme en plus qui vit dans une époque aujourd'hui malgré tout révolue, mais malgré tout, y a l'idée, parce qu'elle est quand même très moderne et elle a une manière assez moderne aussi d'entretenir ses relations avec la gente masculine. Et pourtant, y a l'idée que quand on est une femme, si on a de l'ambition, eh bien forcément, ça devra se payer sur la vie sentimentale, quoi. Alors c'est pas tellement il n'est pas possible de tout avoir dans la vie, mais ouais, quand même il y a un petit peu de ça et on va y revenir justement pour essayer de voir ce qu'il en est. C'est vraiment quelque chose qui me dérange parce que j'ai l'impression que c'est un message qu'on retrouve énormément sous différentes formes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et qui finalement peut avoir un impact assez important sur les femmes justement qui regardent ces séries, qui vont peut-être s'auto-censurer dans leur vie à elles en ayant été imprégnées comme ça de l'idée que si elles en voulaient trop, si elles cherchaient trop à faire de leur vie un succès professionnel ou ce genre de choses, eh bien forcément elles risqueraient de le payer assez cher, et je trouve ça quand même assez effrayant de continuer encore à faire passer ce message-là, quoi. Donc voilà, c'est le thème dont on va parler aujourd'hui. Et la première chose que j'ai envie de dire, alors j'ai évidemment passé en revue toutes les séries qui pouvaient correspondre plus ou moins à ce thème, autant te dire que j'ai une infinité de séries devant les yeux. Il y en avait tellement que je les ai pas toutes notées, parce que vraiment c'est assez foisonnant par rapport à d'habitude. Il y avait beaucoup plus et donc j'ai essayé de rassembler tout ça pour donner un minimum de structure quand même. Et l'impression qui en ressort, c'est notamment que finalement ce thème-là, la question de l'ambition, pour les personnages féminins uniquement, hein, et on reviendra justement un petit peu plus tard sur la question est-ce que c'est différent pour les hommes et en quoi ça peut être différent pour les personnages masculins. Ça nous est présenté sous forme de stéréotypes qu'on va retrouver quasiment systématiquement. Et ce sont des stéréotypes en fonction de l'âge ou en tout cas de l'avancement dans la vie du personnage en question. Et donc on va passer en revue comme ça ces différents stéréotypes, ces différentes étapes également de la vie des personnages, et puis peut-être essayer de donner des exemples, voir s'il y a des contre-exemples aussi, les souligner, parce que c'est important aussi de se rendre compte que forcément il y a aussi des séries qui vont pouvoir apporter un regard un petit peu différent quand même, quoi. Alors, la première étape, évidemment, c'est la jeune fille ou la jeune femme. Et très, très souvent, quand on traite, en tout cas, de la question de l'ambition, hein, on a du coup des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont extrêmement qui sont extrêmement prometteuses. Alors généralement elles sont célibataires ou en tout cas peut-être qu'elles ont l'une ou l'autre relation amoureuse, mais évidemment sans engagement à long terme. Hein. Et dans ces cas-là, eh bien elles ont quelque part on leur promet un avenir absolument radieux, et quand je parle d'un avenir radieux, c'est évidemment ici surtout d'un avenir professionnel ou en tout cas une forme de réussite sociale et professionnelle dont je parle. Hein. On leur promet vraiment un avenir radieux, mais en même temps, ces personnages de femmes sont toutes à peu près taillées sur le même moule. Dans le même moule, d'ailleurs. Bon, bref, coulées dans le même moule, c'est-à-dire qu'elles sont souvent présentées comme étant évidemment très intelligentes, mais aussi extrêmement sérieuses, hein, voire dans certaines séries qui poussent un petit peu le trait, on va avoir des vrais obsédés du contrôle, hein, des maniac freaks, comme on dit, des filles qui paniquent dès que les choses ne se passent pas exactement comme elles l'avaient prévu, et qui ont un besoin assez incontrôlable de tout contrôler, si ça a un sens,
oui,
de dire
on a, ça. On a compris.
donc ça c'est la première étape. Alors quels sont les personnages auxquels on peut penser quand on a cette étape-là? Eh bien, par exemple, on pourrait évidemment, c'est un petit peu la mère de toutes. On peut penser à Lisa Simpson, hein, qui va se retrouver dans ce modèle-là, sous un modèle un petit peu différent, parce que là, justement, ça va évoluer, elle ne reste malgré tout pas célibataire, donc il y a quand même un petit peu d'espoir dans ce cas-ci. Dans Brooklyn Nine-Nine, on a un personnage qui se trouve un petit peu comme ça. Dans Dawson, évidemment, on a deux personnages qui peuvent correspondre à ce stéréotype, évidemment Joey d'un côté, mais on a aussi Andy qui correspond assez bien à ce stéréotype-là. On pourrait penser éventuellement, pourquoi pas, à Monica dans Friends également, même si au niveau de l'avenir prometteur, c'est peut-être un petit peu moins flagrant. On va pouvoir penser éventuellement à Parks and Recreation avec le personnage de ça y est, j'ai oublié son nom, enfin le personnage principal, qui est particulièrement ambitieuse, puisqu'elle se rêve déjà à la tête des États-Unis. Hein. Donc voilà, il y a comme ça, on peut penser à Jane the Virgin aussi, qui est peut-être sur un mode un petit peu plus calme que certaines autres, quand même un petit peu plus apaisé vis-à-vis de ses ambitions. Mais donc voilà, on a un certain nombre de personnages féminins assez jeunes, encore libres de tout engagement amoureux, hein, qui se présentent sous ce modèle-là, très, très prometteur, assez sérieuse, mais dont l'avenir s'annonce plutôt radieux. Et puis, on a la deuxième étape. Et la deuxième étape, ça va correspondre à un autre stéréotype. C'est l'idée que, une fois qu'il y a un couple sérieux qui rentre en ligne de compte pour ces personnages de jeunes femmes-là, eh bien, ça constitue un obstacle majeur dans leur vie. Et bien souvent, quand on voit ces personnages justement évoluer, puisque ben, dans les séries, évidemment, ces jeunes filles, on les voit grandir et on les voit évoluer, et bien souvent, le couple, même si c'est un couple qui fonctionne assez bien, va à un moment buter sur cette promesse d'un avenir où il va... Alors, c'est pas tellement qu'il va falloir choisir, parce que finalement, c'est tellement évident qu'elles sont promises à de grandes choses professionnellement que le couple finit par rompre de lui-même. Bon, c'est un petit peu le cas dans The Marvelous Mrs. Maisel, hein, même si bah, dans ce cas-là, elle est déjà mariée. Mais il faut avouer que, étant donné que le mariage avait déjà été rompu précédemment, mais c'était un engagement moins clair. Mais je pense aussi notamment à Dawson, dans ce cas-ci, à Joey, qui parce que elle a de grandes ambitions, voit le couple qu'elle forme avec Pessy reporté au calendrier grec, ou en tout cas coupé net, parce que c'est son avenir à elle qui est tout tracé, en tout cas dans leur tête à tous les deux. Le met dans une insécurité énorme, quoi. Et on retrouve ça aussi, d'ailleurs, dans The Marvelous Mrs. Maisel, l'idée que la réussite de ces jeunes femmes, le fait que elles sont extrêmement talentueuses, on est sûr qu'elles vont arriver à de grandes choses, font que l'homme qu'elles ont à côté d'elles est pétrifié, se sent totalement diminué et ne se sent pas à la hauteur de continuer à être leur compagnon dans la vie de tous les jours, quoi. Donc le couple rompt d'une manière ou d'une autre parce que le compagnon en question a besoin de se sécuriser, de se réaliser, de s'accomplir avant de pouvoir éventuellement prétendre reconquérir la jeune femme en question, quoi. Mais y a ici véritablement un message qui est impossible pour un jeune homme.
Oui, c'est dans la logique des choses que ça se passe comme ça, qu'il y ait cette frustration insurmontable.
En tout cas, ça semble être le cas, quoi. Y a une vraie difficulté. Mais c'est une difficulté, on le notera, que l'on ne retrouve pas dans d'autres séries que j'ai citées, notamment dans Jane the Virgin, par exemple. Cette question n'est pas aussi flagrante. Alors, évidemment, sa réussite en tant qu'écrivain est peut-être moins certaine. Elle est pas présenté comme étant une évidence absolue, ni d'ailleurs comme le fait d'entrer dans une forme de, d'élite sociale, économique, etc., comme ça peut l'être dans les deux cas précédents. Mais malgré tout, on voit que les deux prétendants de Jane, en tout cas au début de la série, ne se sentent pas aussi fragilisés que ça par ses ambitions, quoi. De même, dans Brooklyn Nine-Nine, Jake ne se sent pas remis en question dans son identité par la volonté de son intérêt amoureux d'avancer dans sa carrière, quoi. Donc peut-être y a-t-il aussi une évolution malgré tout dans la manière dont on nous présente ces personnages là, hein, parce que les deux séries que je cite là sont quand même un peu plus récentes que Dawson. Par contre, pour The Marvelous Mrs. Maisel, là c'est un petit peu moins pardonnable. Bref.
On l'a compris, tu es remontée.
Tu l'auras compris, oui. J'étais pas très contente. Troisième étape, cette fois-ci, on va avoir un certain nombre de personnages qui sont des femmes mariées. Alors bien souvent, ça va être dans les séries familiales, que ce soit des comédies familiales ou bien éventuellement des dramas familiaux. Et j'ai l'impression que dans énormément de ces séries-là, on va retrouver à un moment ou à un autre de l'évolution de l'histoire. Et souvent, d'ailleurs, quand les enfants commencent à quitter le nid, hein, et qu'il y a un vide qui se fait, on va avoir généralement le mari, ou quand c'est un couple moins établi que ça, éventuellement le petit ami, mais on va avoir souvent la représentation d'un compagnon qui va inciter, éventuellement même parfois proposer, faire lui-même les recherches, etc., et vraiment dire qu'il va soutenir sa compagne pour que, notamment très souvent, qu'elle recommence à faire des études qu'elle avait abandonnées pour s'occuper de ses enfants. C'est un modèle qu'on retrouve assez souvent dans les séries familiales. Donc, on a un petit peu l'idée que après s'être bien occupée de ses enfants, la femme pleinement accomplie va être pleinement soutenue par son compagnon pour pouvoir enfin passer à une autre étape de sa vie, quoi. Donc ça, c'est assez marrant. Dans ce cas-là, c'est pas du tout, il y a pas de question d'insécurité, puisque c'est le compagnon qui initie lui-même, qui insuffle dans l'oreille de sa femme l'idée d'avoir un petit peu d'ambition et de passer à autre chose, quoi. Donc c'est plus exactement la même dynamique. Alors ensuite, on va avoir en quatrième étape. Alors ici, c'est évidemment pas après la troisième, mais ce serait en parallèle. Soit on a les femmes mariées d'un côté, et puis de l'autre côté, on va nous représenter un certain nombre de femmes qui sont qui vivent un succès professionnel assez évident. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a quand même une surreprésentation de ces femmes-là comme étant, comme vivant dans une assez grande solitude. Très, très souvent, eh bien, on voit des femmes très accomplies professionnellement, mais qui rentre chez elle le soir seule, et qui donc attendent toujours quelque part que quelque chose vienne les compléter. C'est aussi un modèle qu'on va retrouver quand même très 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 régulièrement dans les séries, quoi. Ceci dit, c'est à nouveau pas toujours le cas, et parfois on va avoir malgré tout un certain nombre de séries qui vont nous proposer des femmes qui réussissent bien professionnellement, mais qui ne nous présentent pas une forme d'incomplétude, de manque, parce qu'elles n'auraient pas trouvé l'amour, la famille, etc. Donc ça évolue, j'ai l'impression, un petit peu, mais c'est pas si évident que ça. On aurait d'un côté, par exemple, le modèle Ally McBeal, hein, qui clairement est plutôt dans une certaine réussite professionnelle. Et puis, on aurait de l'autre côté, par exemple, le personnage de Kim dans Better Call Saul, tu vois, qui est totalement accompli professionnellement, qui continue à avancer, à tracer son chemin, quel que soit le chemin de son compagnon par ailleurs, quoi. Les deux choses ne sont pas forcément liées, et il y a aucun moment où on vient nous mettre dans la tête l'idée que c'est parce que elle réussirait un petit peu trop bien que forcément son compagnon finirait par vouloir l'abandonner parce qu'il ne se sentirait plus totalement à sa place à côté d'elle, ou bien il se sentirait menacé par sa réussite, ou que sais-je encore, quoi. Peut-être que là aussi ça évolue un petit peu, mais l'idée selon laquelle l'ambition des femmes joue un petit peu sur leur caractère et les déshumanise finalement, les rendent moins sensibles à ce que ressentent les autres, etc. C'est quand même quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement chez les personnages féminins, quoi. Elles ont du succès, mais en même temps, ce succès va les obliger à faire un certain nombre de concessions avec la moralité, va les obliger parfois à passer sur le pied de certaines personnes. Enfin, elles vont être moins gentilles, moins attentives que ne devrait l'être normalement une femme normale, entre guillemets. Et donc ça leur ôte leur caractéristique féminine et donc désirable. Ceci dit, c'est pas le cas pour tout le monde non plus. Il y a certaines personnes, et je pense notamment aux séries de Aaron Sorkin, dans lesquelles les personnages féminins avec du succès sont plutôt positifs et vus comme étant assez désirable, quoi, hein. Donc c'est pas systématique. Certaines séries vont nous présenter le succès féminin plutôt comme étant peut-être presque un joyau supplémentaire à conquérir pour l'homme, mais souvent j'ai l'impression quand même que c'est plus le message de la déshumanisation progressive qui va apparaître. On peut penser à plein de personnages, hein, comme ça, qui, à cause de leurs ambitions, perdent peu à peu de leurs caractéristiques féminines, comme on peut les appeler. On peut penser à The Good Wife, on peut penser à The Americans, pourquoi pas. On peut penser évidemment à Game of Thrones, avec Cersei qui, malgré tout, en tient une couche à ce niveau-là. On peut penser éventuellement à Masters of Sex aussi, où finalement la froideur avec laquelle peut réagir de temps en temps le personnage féminin va nous étonner, hein, alors que le personnage masculin se met totalement accord perdu dans la relation amoureuse, et là on a une sorte de distance tout à coup du côté de la femme, là où on ne l'attendait pas forcément, quoi. Donc le succès est présenté souvent comme étant accompagné d'un certain nombre d'obstacles, la solitude et évidemment la déshumanisation parfois, et puis on va aussi insister beaucoup sur tout ce qui va pouvoir poser problème, tout le prix à payer pour les personnes, les femmes qui veulent réussir, ou bien parfois aussi les obstacles psychologiques qu'il va falloir surpasser. Ceci dit, pour les femmes qui, elles, sont dans des situations difficiles, et notamment des mariages difficiles, mais le succès professionnel peut aussi être présenté comme une véritable porte de sortie et une véritable émancipation. C'est aussi le cas dans The Good Wife, hein, il y a les deux, à la fois ça la durcit, mais en même temps ça lui permet d'un petit peu s'émanciper de son marivolage. C'est le cas aussi par exemple dans Big Little Lies, où on voit bien à quel point le fait que Céleste risque de recommencer à travailler est un enjeu extrêmement important pour son mari abusif. Donc voilà, ça c'était la figure de la femme qui a du succès. Et puis enfin, la dernière figure, le stéréotype qui vient clôturer un petit peu tout ça, c'est la vieille femme. Hein, et la vieille femme, elle peut avoir, dans ce cas-ci, trois visages différents, même si il y en a un qu'on voit assez peu, c'est celui de la vieille femme épanouie. Je dois avouer qu'on ne la rencontre pas souvent hein, dans les séries. Par contre, des vieilles peaux de vache, il y en a plein.
Comme dans la réalité, j'ai envie de dire.
Ça, c'est toi qui le dis. Mais ça fera plaisir à toutes les personnes
toutes celles qui ne
se
le sont pas, c'est vrai.
Visées. Donc, des vieilles peaux de vache, il y en a plein et qui peuvent être... On peut expliquer leur caractère acariâtre de deux manières. Il y en a certaines qui sont comme ça parce que, justement, elles ont été déshumanisées par leur succès. Hein. Donc, ce sont les anciennes femmes qui ont eu énormément de succès, ou en tout cas, celles qui continuent à avoir du succès, mais qui sont déjà bien avancées dans leur carrière, voire en fin de carrière. Et puis, il y a celles aussi qui sont frustrées de n'avoir pas pu... se réaliser, et celle-là aussi, il y en a un paquet. Donc, malheureusement, pour les femmes, une fois qu'elles commencent à vieillir dans les séries, ça se termine rarement bien. Heureusement, il y a quelques séries quand même qui essaient de nous dire qu'il y a peut-être une autre vie possible après le succès professionnel, après la famille, etc. Par exemple, comme Grace and Frankie qui vient apporter un point de vue un petit peu différent, et ça peut aussi rafraîchir tous nos stéréotypes sur ce sujet. Voilà, on va s'écouter un peu de musique.
Oui, mais tu me rassures, donc il existe quand même quelques séries qui te donnent l'image que tu attendais de la vision de la femme.
Mais
la représentation
des
qui
représentations
te convient,
de vieilles femmes, tu vois, qui soient relativement épanouies, il n'y en a pas énormément. Hein.
Non, mais même dans tous les profils que tu as définis jusque-là, tu es assez négative. C'est comme si tu n'avais pas trouvé beaucoup d'exemples contraires.
Si, hein, j'en ai cité quelques-uns. La seule chose, c'est que c'est rare que ce ne soit pas accompagné quand même,
oui, mais voilà,
de certains signaux disant attention, si vous cherchez trop à réaliser vos ambitions, il y a quand même un prix assez lourd à payer, quoi. Mais comme je l'ai dit, des séries comme Jane the Virgin, comme Brooklyn Nine-Nine, viennent un petit peu renouveler cette idée-là, comme Better Call Saul, en tout cas jusqu'à présent aussi pour le personnage de Kim, éventuellement...
Oui, mais elle est un peu, je sais pas, touchée aussi par le fait qu'elle a l'air un peu plus stricte, tu vois, moins féminine aussi, tu vois.
Ah oui, Oui, bien sûr. On pourrait se dire qu'éventuellement, elle a été endurcie elle aussi par ses ambitions. C'est vrai qu'on peut le voir un petit peu comme ça. Donc, finalement, tout ça nous mène à quel constat ? On va essayer de tirer quelques petites conclusions sur tout ce qui a été dit. Alors, j'en ai trouvé quelques-unes. La première, c'est que j'ai dit qu'on allait essayer de voir en quoi, finalement, la manière dont est traitée l'ambition chez les personnages féminins était différente de la manière dont c'était traité chez les personnages masculins. Il me semble que la différence, c'est que chez les personnages féminins, c'est simplement un vrai thème central, ce qui est problématisé en tant que tel, questionné. Est-ce que finalement, il est bon pour une femme d'avoir de l'ambition ou pas ? Alors, c'est vrai que beaucoup de séries vont plutôt défendre l'idée que oui, c'est bon, c'est une bonne chose, etc. Il faut que les femmes aient de l'ambition. On va beaucoup défendre l'idée que les femmes ont droit à avoir une carrière, etc., dans les séries. Mais malgré tout, la question continue à rester là, en suspens, un petit peu problématisée. C'est un enjeu central pour les personnages féminins, tandis que la question ne se pose pas véritablement pour les hommes, quoi. Pour les hommes, la question éventuellement des répercussions que ça peut avoir sur leur vie amoureuse ou éventuellement familiale, ça va constituer davantage un obstacle éventuellement à la réalisation de leur mission, donc finalement plus un prétexte narratif, mais parmi tant d'autres obstacles qu'ils peuvent rencontrer, quoi. Mais à aucun moment on va poser la question « Est-ce que tu as raison d'avoir autant d'ambition et est-ce que tu risques pas de le payer un peu trop cher ?» Donc c'est là que je situerais la grande différence. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est que dans les séries, malgré tout, il y a une sérieuse remise en cause des bienfaits du couple et de la vie amoureuse et familiale pour les femmes, quoi. La question est quand même peut-être posée dans les deux sens. Il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que finalement, parce qu'on voit que les jeunes femmes finalement sont pleines de promesses, et donc on se dit, est-ce que c'est toujours une bonne chose pour elles de s'engager dans un couple. En tout cas, ça n'a pas toujours l'air d'avoir des effets très positifs sur les promesses qui étaient données à la base. Pourtant, on nous montre assez peu d'exemples de conjoints qui sont vraiment paralysants pour les ambitions. On a plutôt beaucoup de soutien de la part notamment des maris. Donc, c'est assez rare qu'on nous montre des hommes vraiment qui empêchent leurs femmes de réaliser leurs ambitions. Néanmoins, la question de l'insécurité que ça risque de provoquer chez les petits amis est assez régulièrement montrée. Donc, c'est un petit peu plus insidieux. La question de l'ambition, c'est aussi l'occasion de montrer beaucoup de catfights, des disputes entre femmes. On peut penser au début de la série Nashville, on peut penser à Few. Il y a un certain nombre de séries comme ça où les femmes ambitieuses vont s'affronter, mais c'est aussi l'occasion de découvrir une véritable sororité entre femmes. Et donc une autre manière d'envisager sa vie et éventuellement d'être heureuse, d'avoir des relations, etc., que simplement le seul horizon couple-famille. Ça ouvre un petit peu les possibilités pour envisager une vie de femme. Finalement, c'est un enjeu majeur d'émancipation. On n'a plus un modèle unique de vie, mais on a plusieurs choix. Même si la question n'est pas encore totalement tranchée et que le chemin continue à être présenté comme étant dangereux. Finalement, je terminerai en disant que le message sous-jacent qui est transmis, c'est vous voulez tout avoir, les filles, mais dans la vie, on peut pas tout avoir. Le problème, c'est que ça montre jamais pourquoi on peut pas tout avoir, on ne désigne jamais un responsable. Et donc, on présente ça comme une fatalité. Mais à aucun moment, la question se pose de la même manière pour les personnages masculins. Et donc, en quoi est-ce une fatalité et en quoi, éventuellement, c'est dû à ce qui est attendu des rôles masculins et féminins. Ça, c'est peut-être moins souvent traité, quoi.
Voilà, ce sera le mot de la fin.
Oui.
On va essayer en tout cas de se quitter en musique.
Oui, on va s'écouter Dream, Little Dream on Me de Mamas and Papas, entendu dans Chilling Adventures of Sabrina.
Merci Aurore, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Little dream of me. Da 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 da.